Chapitre 14. Jour de marché. Un matin de mai, vaporeux et doux, dans son rafiot de garde-pêche, à la plaque de cuivre administrative, Chuchun remontait la Seine, d'Athis à Évry, cherchant au long de la berge des places nouvelles pour ses verveux de la future saison. Rien qu'à le voir nager, à sa molle façon de tenir les rames, à des habitudes prises de musarderie et de bavardage, on sentait l'absence du maître et une absence qui durait depuis longtemps. Toute la rivière appartenait aux garde-pêche. Des chalands qui descendaient au fil de l'eau lui passaient la goutte à boire. Il criait de loin des gaudrioles aux femmes des mariniers, des flotteurs, aux laveuses du grand bateau amarré près du pont, plus ramageur à lui tout seul que les traquets et les bergeronnettes des deux rives. Il venait de finir avec les blanchisseuses qui le menaçaient de leur battoir, lorsqu'en levant la tête, dans le mouvement des avirons, il aperçut, appuyé à la rampe du pont, l'élégant et macabre Monsieur Alexandre. Caché dans l'ombre de la pile, le père de Rosine resta un moment à nageoter sur place et à ruminer dans son brûle-gueule en guettant l'ancien maître d'hôtel. « Qu'est-ce qu'il fiche là, ce vieux flibustier ? C'est vrai qu'il ne perd pas un mot de ce qui se potine dans le lavoir, le lessivage en grand de la commune. Mais Monsieur Alexandre en connaît bien d'autres, il pourrait leur en apprendre à toutes ses commères. » Non, en guignant le fond de l'eau, son petit œil file du côté de la gare, pour sûr qu'il attend quelqu'un. En deux coups de rame, il émergea de l'ombre et de sa vieille voix éraillée et blagueuse. « Sait-il que vous amorcez déjà, mon père Alexandre? Nous avons du large pourtant d'ici l'ouverture. » L'autre parut gêné, ajusta son binocle, le temps de trouver quoi répondre. « Tu ne savais pas si bien dire, vieux Chuchun. Je guette par ici un fond de goujons qui ne seront pas pour ténaces. » Il s'interrompit, l'oreille à la gare. Mais ce qu'il prenait pour le train montant sur Paris était le grondement lointain de l'écluse. Il reprit, penché vers le rafiot. « Et chez vous, quelle nouvelle? Le patron ne revient toujours pas de son Algérie ?»« Blagueur! Avec ça que Rosine ne te raconte pas tout ce qui se passe à la maison. » Monsieur Alexandre fit la grimace. Il évitait de parler de Rosine avec son père par un sentiment de convenance que ce manant ne comprenait pas, peut-être aussi dans la crainte d'explications fâcheuses. « Hé, Chuchun ! » cria-t-il pour détourner la conversation. « Regarde donc ton locataire qui va à la cave !» Le père Georges sortait en effet de sa baraque, clignotant à la vive lumière de l'eau, les jambes flageolantes et tenant à deux mains une interminable canne à pêche. « Propre à rien !» gronda le garde avec le mépris haineux du paysan pour l'homme qui ne peut plus travailler. « En voilà une idée de remiser ce sac à vermine !»« Ah ça ! Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa gaule ? La pêche n'est pourtant pas ouverte !» T'as donc pas vu qu'il a une bouteille attachée au bout? Il fait sa provision d'eau de Seine. Pige-le s'il est rigolo. La berge se trouvant très élevée, le vieillard avait imaginé ce moyen d'atteindre jusqu'à la rivière. Mais les eaux étaient basses, il fut obligé de s'étendre, de s'aplatir dans l'effort impuissant de sa vieille carcasse. Alexandre et Chuchun s'amusaient beaucoup de cette pantomime. Il va se faire craquer la peau. C'est vrai qu'il est ras du bord. Sa tête l'entraînera, bien sûr. Prenez garde, hé, père Georges ! Hé, Vlan, ça y est ! Un appel de détresse éperdu et sauvage, une de ces rauques clameurs dans lesquelles l'être met toute sa vitalité, fit retentir les deux rives. L'agitation des roseaux du bord montra la place où le vieux venait de tomber, la tête en avant, et des paysans qui travaillaient dans un champ voisin parvinrent non sans peine à le tirer de l'eau. Lorsqu'on l'eut remis sur la berge, grelottant, ruisselant, toujours sa gaule entre ses doigts crispés, seulement alors le garde-pêche, qui, un moment, s'était cru débarrassé de son locataire, se rapprocha en quelques coups de rame et vint hypocritement lui porter secours. En même temps, le train sur Paris sortait de la gare et la Bru à saute-cœur apparaissait à l'entrée du pont, dans sa robe d'été légère, à raies roses, que le vent de la Seine lui plaquait aux jambes. Elle venait d'accompagner son mari, escortée d'une forte dame essoufflée et courte, poussant devant elle une voiture de bébé. Madame Noël, la femme d'un professeur de lycée parisien, qui avait loué une chambre à l'Ermitage pour faire respirer à sa toute petite fille la saine odeur des bois. Dès qu'elle aperçut le complet bleu de l'ancien domestique, la saute-cœur changea de figure et, priant Madame Noël de l'attendre au bas de la côte, s'approcha toute frissonnante de M. Alexandre qui la guettait venir, immobile, appuyée au parapet du pont. Quelques mots furent échangés à voix rapide et basse. « Le prince à Grosbourg, rendez-vous dans la forêt, chaîne prieure. »«
Impossible, trop surveillé. »«
L'Indien ?»«
Oui, ce qu'il m'assomme !»
Du monde passé, des gens du pays, des fournisseurs. La boulangère les saluait sous l'auvent de sa voiture. Le garçon boucher à cheval, un grand panier de viande en travers de son tablier blanc, se retournait pour leur sourire. Et M. Alexandre affectait de détailler très haut l'accident du père Georges, désignant d'un geste emphatique les roseaux écrasés et brisés, la cabane où l'on avait porté le pauvre vieux.
« Ah, j'ai bien cru qu'il faudrait appeler la charrette à Foucart !»
Puis, tout bas,
« Demain, jeudi, marché de Corbeil, à 11 h, chez le bijoutier de la rue Saint-Spire. Vous choisirez les bijoux ensemble. »«
Je ne sais pas, je ne peux pas promettre !»
murmurait la grande fille, incertaine, les yeux sur l'horizon où l'écluse d'Évry roulait son torrent. Elle ajouta, pour ceux qui auraient pu entendre,
« Pauvre père Georges, une fluxion de poitrine à son âge ! Bien l'honneur, monsieur Alexandre !»«
Médène !»
Les laveuses d'à côté, que l'activité de leur battoir dans l'écho du pont n'avait pas empêché de suivre attentivement tout le mystère de ce court dialogue, quand elles virent M. Alexandre le terminer d'un baiser du bout des doigts, étourdirent le vieux beau de leurs invectives.
Ce passionné d'Alexandre, il n'avait donc pas assez de la Chuchin, la saute-cœur maintenant. C'était de famille, du reste. L'Indien passait pour le plus fameux cornard du pays, son fils allait prendre la suite. Et des claquements de battoirs et des rires à craquer les corsages.
Sans se douter que cette musique fût pour elle, la fille à saute-cœur rejoignait sa compagne au bas de la montée et, tout en l'aidant à pousser sa petite voiture, lui proposait d'aller ensemble le lendemain au marché de Corbeil. On attellerait Blanchette à la carriole d'un voisin. C'est elle-même qui conduirait, un chemin ravissant par le bois. La petite fille s'en trouverait très bien.
Seulement pour mon beau-père, il faut que l'idée vienne de vous. Il se méfie trop de sa bru, comme de toutes les femmes d'ailleurs. « Vous êtes la seule exceptée, je ne sais pas pourquoi. Avant votre arrivée chez nous, une promenade en forêt, sans mon mari, il ne me la permettait pas. Vous lui direz que vous avez des emplettes à faire. On s'amusera, vous verrez. »
Si le père saute-cœur montrait trop de méfiance, Madame Noël n'en avait vraiment pas assez. Depuis un mois, la bonne dame se prêtait le plus innocemment du monde aux scélérates entreprises de Charlexis sur la femme de son lieutenant. Cette honnête et large figure de nourrice, le titre de professeur dans un lycée porté par le mari, rassurait le garde au point de lui faire perdre ses habitudes de soupçon et d'espionnage. Les deux amis sortaient seuls tous les jours, emportaient la petite fille, dépliant un goûter, et s'installaient au rond-point du chêne prieur dans un peuplement qui n'était pas de la surveillance de l'Indien. Ces dames causaient, cousaient, lisaient tout haut le petit journal, mêlant les faits divers au crépitement d'insectes dans les taillis, au bourdonnement des cimes d'arbres. Après une heure d'immobilité, Madame Sautecœur proposait de marcher un peu et finissait par faire seule un tour de forêt, son opulente amie aimant surtout à ne pas changer de place. Vers les vieux murs de parc, embroussaillés, percés de hautes grilles, qui longent cette partie du petit sénart, s'étendent à perte de vue les sous-bois d'une herbe veloutée que caressent les basses branches, balancées au moindre souffle comme des punkas bengalais. Au lointain d'une de ces immenses et mystérieuses pelouses, toujours à la même place et comme oublié là, un grand parasol de soie écrue attendait la jeune femme, et sous ce parasol qui l'abritait entièrement, le beau Charlexis moelleusement étendu dans l'herbe grasse. L'entrée de l'ermitage lui étant interdite, depuis que le garde l'avait prise à embrasser sa belle-fille, il s'était improvisé ce campement rendez-vous, vraiment dangereux et précaire, où ne pouvaient s'échanger que des baisers furtifs, des caresses maladroites, dans la hâte et le tremblement. De leur rencontre au marché naîtrait sans doute une occasion meilleure. Quand la carriole de l'ermitage traversa le large pont de Corbeil, le lendemain matin, la petite ville, silencieuse et déserte à l'ordinaire, grouillait de mouvements et de bruit. Serrés autour de son vieux cloître, sur la rive gauche de la Seine, les jardins étalés en terrasse en face d'elle, le nivellement graduel des perspectives lui donne un vague aspect de bal à la hauteur du Munster, mais bal un jour de concours régional envahi par tous les villages, toutes les fermes de sa banlieue. Sur la place du marché et dans les rues avoisinantes s'enchevêtraient des véhicules campagnards de toutes formes, rendant la circulation très difficile. La Sautecœur conduisit le sien dans le cloître de Saint-Spire, calme et désert au cœur même de la ville, toujours frais du vent qui tourne en courant d'air autour de l'ancienne église, et dit à Madame Noël de l'attendre le temps de faire ses achats. « Si la petite s'ennuie, vous pouvez entrer dans l'église. Il y a un chevalier en pierre de toute beauté. » Puis, radieuse, elle courut à son rendez-vous. Le prince, arrivé avant elle, dans un coin du magasin rempli d'acheteurs, choisissait des boucles d'oreilles au bord du comptoir, une chaise vide préparée à côté de la sienne. Elle s'y assit et, serrés l'un contre l'autre, ils se parlaient tout bas, en faisant briller les boucles sur un petit carré de velours noir, tandis qu'autour d'eux, des fermiers de Morsan qui mariaient leurs fils, venus en bande de parents, de connaissances, marchandaient les bijoux de la corbeille avec des mots, des rires, des parapluies, de grandes coiffes, à se croire au palais royal, un soir où se donne quelque désopilante labicherie. Mais les deux amants avaient mieux à faire que s'en égayer. L'Indien, ce soir-là, était commandé de service de nuit avec tout le personnel de la forêt. « À 10 heures, je serai à l'ermitage. Garde la fenêtre de ta chambre ouverte. »«
Oh, je vous en prie, non, j'ai peur. »«
Peur de quoi? Ton mari est à Paris, le vieux ne rentrera qu'à 6 heures du matin. Il s'agit de ne pas s'endormir, mais nous n'en aurons guère envie. Pense une nuit, toute une nuit à nous, pour la première fois. » Il lui parlait dans le cou, dans les cheveux, tandis qu'elle essayait ses bijoux neufs. La noce venait de partir. La boutiquière et sa sœur, figures moyenâgeuses, frustes et verdâtres produits d'une vieille race épuisée, type fréquent en Seine-et-Oise, s'approchèrent du prince en le saluant jusqu'à terre et s'informant si Monseigneur avait choisi ce qu'il lui fallait. « Oui, Madame Souchotte, cette parure complète que je viendrai chercher moi-même ce soir. » La fille à Sautecœur se levait, rougissante, prête à sortir, quand un grand landau s'arrêta devant le magasin, qui, très sombre déjà, fut obscurci comme par le déroulement d'une large marquise au-dessus de sa vitrine. « La voiture de Madame Fénigan !» dit la boutiquière, avec une intonation respectueuse, moins humble cependant que pour Charlexis. Ô clavier du commerçant, 100 fois plus subtil et nuancé que la gamme chinoise. Le prince ne bougea pas, ne détourna pas la tête, mais l'expression de son sourire modula, devint méchante à mesure qu'il voyait s'avancer dans le magasin une élégante et longue silhouette de femme.
Ma montre est-elle prête?
Lydie n'eut pas la force d'achever. Voulu ou non, une toux nerveuse étranglait sa voix. Elle ne l'avait pas revue depuis la comédie de Monte-Carlo, la rupture et la fuite. Et voilà qu'en face d'elle, à l'improviste, la glace ternie d'un magasin lui présentait cette jolie figure d'impudence et de fourberie. Ce fut une impression rapide et très multiple, dégoût, épouvante, colère. En même temps, la joie de ne trouver dans ses sentiments divers aucun regret et de fixer une incertitude qui l'agitait quelquefois lorsqu'elle se demandait « Qu'éprouverais-je en le revoyant ?» Si jamais elle l'avait aimé, c'était bien fini, grand Dieu. Et cette Sautecœur, avec ses yeux de charbon et sa faubourienne insolence, avait bien tort de la regarder furieusement. Sa montre était prête, elle la prit et sortit sans un mot.
mais devant ses traits bouleversés, sa belle-mère s'écria en l'apercevant.
« Que vous est-il donc arrivé ?»«
La mauvaise rencontre !» murmura Lydie en s'asseyant à côté d'elle. Et, à voix basse, à cause du cocher dont le dos s'arrondissait pour écouter, elle nomma Charlexis.
« Ah, je n'aurais jamais dû venir à ce marché !»«
C'est ma faute, cher enfant, mais vous ne sortez jamais, j'ai voulu vous faire prendre l'air une fois. »
« J'avais le pressentiment de quelque malheur !»
Le regard de la mère s'alarma.
« Un malheur ? Oh, rien de ce que vous pourriez craindre d'une folle comme moi ! Non, j'aime mon mari, je n'aimerai jamais que mon mari. Mais comment lui dire que je l'ai rencontré ?
Gardons cela entre nous deux. Quand tout va si bien, quand Mérivée nous envoie de si bonnes nouvelles, nous retarderions peut-être sa guérison et son retour. »
Alors il faudra mentir, ne pas lui dire tout comme j'en ai pris l'engagement, sans y manquer une fois depuis qu'il est en Algérie.
Pendant qu'elle causait, la voiture allait au pas dans l'encombrement des rues étroites et bruyantes, s'arrêtait chez le pharmacien, le papetier, le bourrelier, le treillageur, qui venait prendre la commande au marchepied, emplir de paquets, de bouteilles, le siège et le caisson de Libère agitant sa longue lévite. Et c'était bien une vraie causerie de femmes, ces profondes et sentimentales confidences, coupées de détails ménagers, de haltes et de marchandages chez les fournisseurs. Devant le pâtissier, où s'était arrêté le landau pour la commande du dimanche, le juge Delcrous, en tenue, ganté, la barbe et la dent luisante, apparut à la portière. On ne le voyait plus aux uselles depuis des mois. Et justement, il entrait là, déjeuner en hâte, pour ensuite prendre le train et se rendre chez ces dames, ayant quelque chose de très sérieux, de très pressant à leur demander.
« Eh bien, montez en voiture et venez déjeuner avec nous !» dit la mère.
Et pendant qu'il s'installait tout joyeux en face d'elle, au milieu des paquets, Lydie, un peu gênée de retrouver un de leurs amis d'autrefois, regardait les petites tables dressées derrière le vitrage, au fond de la pâtisserie noire et poisseuse, s'informant d'un air de faux intérêt.
« Alors, c'est ici que vous mangez ?»«
Oui, madame, à deux pas de mon cabinet. Le tribunal est au bout de la rue, sur cette petite place à côté du moulin. » Elle continuait à regarder tout autour distraitement, sans se douter de l'importance que ces endroits allaient prendre pour elle.
« Vous trouvez tout ce coin bien triste, mesdames, et moi donc ?»
Voilà pourquoi, comptant sur la bonne sympathie...
Au fait, quelle nouvelle d'Algérie? Quand revient notre ami Richard?
Mon fils rentrera bientôt, cher monsieur Delcrous. Mais vous savez qu'en son absence, si nous pouvons vous servir, ma fille et moi...
Le juge s'inclina en souriant. Il s'expliquerait quand on serait loin du marché et de la cohue.
Au trot régulier de son robuste attelage, le landau sortit de Corbeil, laissant derrière lui les cheminées géantes des minoteries, dont la fumée assombrissait tout un côté du ciel splendide. Charrettes, piétons, bestiaux, la joyeuse débandade d'un retour de marché, se hâtaient sur la haute corniche, entre la rivière étincelante au bas, et des champs d'orge et de blé en verte houle jusqu'au bout de l'horizon. Un charreton conduit par des femmes, rapide et dansant, frôla les roues. Lydie reconnut la bru de Sautecœur et longtemps suivit avec pitié les tressauts de l'humble carriole par les chemins raboteux.
Ah, qu'elle eût voulu lui crier casse-cou, l'avertir des fondrières, des chutes irréparables qui l'attendaient.
Mais la petite charrette allait si vite, elle était déjà si loin, presque sur la lisière des bois, immobile et sombre à l'horizon. En sens inverse, arrivait en galopant un tintement de grelots, un grand remous de poussière, dans lequel apparaissait une calèche attelée en daumon, des postillons à la livrée bleue des d'Alcantara, et les jolies juives du château de Mérogis, en compagnie du prince d'Olmutz, avec ses yeux de diamant, son sourire implacable de jeune rajah, regardant combler les puits de belles chairs de femmes roses et blondes. L'équipage disparut, le landau des Fénigans resta quelques minutes silencieux et angoissé.
« Quel bonheur que Richard ne soit pas là !» songeaient ces dames.
Delcroux se demandait s'il serait prudent, après cette rencontre, de risquer la démarche pour laquelle il était venu. Un incident de route fit une heureuse diversion. À la montée de Soisy, deux fillettes, les cheveux couleur de son, détachées d'une roulotte dételée dans un pré voisin, s'approchèrent pour offrir de la vannerie, fabriquée avec des joncs et des herbes d'étang. Bien que la côte fût dure, le cocher, par haine professionnelle des mendiants, fouetta ses chevaux au moment où Lydie tendait la main vers une des petites corbeilles. Madame Fénigan, qui avait vu le geste de sa belle-fille, cria d'arrêter, mais en vain. Et pendant quelques minutes, on entendit le souffle haletant des fillettes derrière la voiture, avec le frottement de leurs petits pieds nus dans la poussière du chemin. À la fin, sur un ordre réitéré de sa maîtresse, le cocher fut obligé de stopper. Lydie, remerciant sa belle-mère, cherchait son porte-monnaie pour solder l'humble achat. Mais déjà, Madame Fénigan avait rempli de pièces blanches les petites mains tendues. « Cela vous étonne, Monsieur Delcroux ? » dit-elle au magistrat. « En effet, madame, vous aviez naguère pour les ambulants une antipathie que je partage du reste. Je me souviens d'avoir eu sur cette même route de Corbeil une discussion avec votre fils. » « C'est vrai, Élise était de la partie ce jour-là. » « Précisément, dit Delcroux, épanoui par le souvenir du petit chaperon rouge. Et montrant ses dents de loup espacées et pointues, « puisque vous avez prononcé le nom de cette charmante personne... » La voiture roulait entre le bois et des pentes de vignes. Des senteurs d'églantines fleuries embaumaient le chemin. Le juge trouva l'heure et l'endroit favorables à sa confidence. Il en avait assez de vivre seul, ces dames venaient de voir en quel coin sombre et mélancolique. Encore ne connaissaient-elles que le corbeil des jours de marché. On ne se figure pas l'ordinaire torpeur de cette petite ville où, dès 8 heures du soir, tout est clos, éteint, où le bruit d'une voiture traversant la rue Notre-Dame fait dire à tous les étages « Monsieur le Président revient du tribunal. L'omnibus de la belle image va à la gare. » Ni cercle, ni salon, aucune distraction possible en dehors du travail. Le seul avantage, Paris a moins d'une heure de chemin de fer et la facilité d'aller plusieurs fois par semaine, place Vendôme, faire un tour dans les bureaux, soigner l'avancement qui lui faciliterait un beau mariage. Enfin, il était là d'entendre annoncer à la pâtisserie Courchevel « le dîner de Monsieur le juge ». Et depuis sa rencontre avec la cousine de Lorient, cette jolie figure rieuse, sur laquelle les chagrins avaient passé sans marquer une ride, ne lui était plus sortie de l'esprit. Élise, questionnée sérieusement un soir, avait remis sa réponse au lendemain, et le lendemain était parti. Après des mois d'attente, d'hésitation, il venait de lui écrire une lettre très détaillée, très sincère, disant sa position, ses chances d'avenir. Et maintenant, il suppliait Madame Fénigan d'intervenir en sa faveur. « Voilà qui est convenu, » lui répondit-elle. « L'existence à Corbeil n'est pas bien gaie pour une jeune femme, mais la cousine ne s'amuse guère à Lorient, et puis nous serons là pour vous aider à la distraire. Je vous promets de lui écrire. » « Et vous me permettrez d'ajouter quelques lignes à votre lettre, » ajouta Lydie, « car j'ai appris à connaître et à aimer cette charmante Élise. » « Ah, mesdames, mesdames, comment vous remercier ?» murmurait le magistrat tout rougissant entre ses épais et noirs favoris taillés en boulingrin. Et tout le temps de la route, on ne cessa d'embellir le projet de mariage des bonnes parties qu'on ferait ensemble au vieux garçon à Sainte-Geneviève-des-Bois, partie de pêche, de chasse. « Il faudra vous marier à Saint-Irène !» jeta Lydie étourdiment. Elle s'arrêta un peu gênée. Mais Delcroux n'était pas susceptible. « Madame Élise étant divorcée, murmura-t-il tranquillement, il n'y aura pas de mariage à l'église et je le regrette. C'eût été charmant dans cette petite chapelle de campagne. » Puis tourné vers Madame Fénigan, « À propos, j'ai appris que votre ami le curé de Draveil venait d'être remplacé. » « Oh, mon ami, il y a longtemps qu'il ne l'est plus. Je ne lui pardonnais pas son acharnement contre l'abbé Cérès, un digne prêtre. » Elle ne put s'empêcher de rire devant la figure ahurie de Delcroux,
à qui elle n'avait jamais parlé du desservant de la petite paroisse qu'avec un profond mépris.
« Que voulez-vous ? Toutes mes idées ont changé. Je ne suis plus la même femme. Comment cela s'est fait ? Je vous le dirai peut-être un jour. Cela pourra vous servir à l'occasion. »
On venait de passer au salon après déjeuner. Lydie jouait un prélude de Chopin dont les roulades envolées faisaient ramager une fauvette dans le grand Polonia qui ombrageait toute l'entrée quand on sonna à la grille. De la table où elle écrivait à Élise, Madame Fenningan voyait les visiteurs s'avancer dans la cour et se leva vivement.
« Lydie, ma fille, fermez votre piano. Voici l'abbé Cérès avec un autre prêtre, sans doute le nouveau curé qui vient nous faire sa visite. »
« C'est ce monsieur Cérès dont on raconte tant de merveilles, » dit le magistrat, s'approchant de la fenêtre où les deux femmes le rejoignaient, discrètement retirées derrière le rideau. Les prêtres marchaient avec lenteur, en causant d'un air dégagé, un peu voulu. Monsieur le curé, surtout, petit, grassouillé, à qui ses joues roses, son double menton ras, sa pèlerine noire donnait l'aspect d'une de ces grosses veuves rassérénées, prospères, comme on en rencontre souvent. Il s'arrêta devant une des deux grandes corbeilles arrondies de chaque côté du perron pour faire admirer un massif de roses à son vicaire, qui, le chapeau à la main depuis la grille, penchant sa tête blanche et sa taille robuste, écoutait avec une déférence enfantine les paroles de son supérieur, plus jeune que lui d'au moins 20 ans. Et c'était là le prêtre révolté, l'indomptable Lucifer, dont on prétendait briser l'orgueil par 5 mois de retraite à la trappe.
« Matin, il n'a pas l'air cossu, le desservant de la petite paroisse. »
Cette observation à mi-voix de Delcruz fut presque involontaire, tant l'avait saisi le contraste des deux soutanes traversant la cour en plein soleil, l'une aussi brillante et d'un noir aussi solide que l'autre, rousse et limée, montrait la corde. Mais le sourcil rebroussé de Madame Fenningan, l'intonation dont elle affirma
« C'est un saint !» coupèrent court aux faciles plaisanteries du magistrat.
Même il retint une forte envie de rire quand le vicaire, sitôt la porte du salon ouverte et l'annonce faite par le domestique, se précipita en avant, bousculant, renversant tout pour entrer le premier. Personne, sur le moment, ne comprit rien à cette arrivée tumultueuse. Et le regard courroucé que lui jetait son chef hiérarchique acheva de décontenancer l'abbé Cérès, si humble, si timide, ignorant des lois sociales, au point de croire que, dans le monde comme à la procession, l'inférieur devait toujours passer devant, l'enfant de cœur avant le diacre avant le prêtre avant l'évêque. Ici, malheureusement, malgré toute sa hâte, il n'avait pu arriver le premier.
« Voilà, monsieur le curé fâché, » pensait le pauvre homme en saluant. « Attention, maintenant, à la sortie, de ne pas commettre la même impolitesse. »
Cette préoccupation donnait un air d'égarement à ses yeux clairs, deux taches bleues dans sa face boucanée, pendant qu'il admirait les belles manières de son curé, sa façon de saluer, de s'asseoir, de féliciter Madame Fenningan sur les splendeurs de son rosarium, ses maréchal Niel, ses gloires de Dijon, et aussi de causer musique avec Madame Richard, d'analyser Wagner et Schumann en dilettante consommée. De même quand Lydie, devenue par sa fréquentation des hôtels cosmopolites, grande liseuse de romans étrangers, jeta dans la conversation les noms de Tolstoï, d'Ibsen, de Meredith, de Dostoïevski, le nouveau curé témoigna que ces auteurs, sans lui être aussi familiers que son bréviaire, n'étaient certes pas des inconnus pour lui.
Quel homme ! Répétaient les bons yeux naïfs de l'abbé Cérès, posés en extase sur la face poupine et rose de son supérieur. Mais celui-ci, peu touché par cette admiration muette, crut pouvoir s'en amuser et demanda brusquement au pauvre vicaire son opinion sur Dostoïevski. De brunes qu'elles étaient, les joues du vieux prêtre devinrent couleur de brique. Tout son visage révélait un tel effarement que Delcruz en eut pitié.
« Monsieur l'abbé Cérès n'a sans doute pas le temps de lire, » dit-il de son ton estradié et autoritaire. « Il a trop de misère à visiter et à soulager. » L'humble prêtre, au supplice sous ses éloges qui lui semblaient diminuer son supérieur, se secouait sur sa chaise, balbutiait dans son rauque accent de montagne qu'il n'était pas plus méritant que les autres, qu'à lui aussi la lecture mangeait du temps. « Allons, Cérès, vous ne vous ferez pas croire que vous avez lu Dostoïevski !» insista M. le curé, dont le gros rire soulevait la pèlerine de visite. « Eh bien, si, je l'ai lu. M. Mérivet me l'a prêté. Et je lui en veux beaucoup à ce Dostoïevski. »«
Vous lui en voulez, et de quoi ?» demanda le curé, abasourdi comme tout le monde.
C'est vrai que le rustique desservant ne semblait guère apte à comprendre l'auteur des Karamazov, ni à lui garder rancune d'une théorie quelconque.
« Je lui en veux d'avoir mis la pitié russe à la mode. »«
La pitié russe? Qu'entendez-vous par là, mon cher abbé ?»«
J'entends cette pitié injuste qui ne va qu'aux coquins et aux gourgandines qui nous attendrit exclusivement sur les détresses du bagne et autres mauvais lieux, comme si le malheur n'était touchant que dans le crime et dans l'abjection. C'est ce que j'appelle la pitié russe. » Nous avons tous connu de braves femmes d'ouvriers s'éreintant à soigner le ménage et les enfants, supportant sans se plaindre les privations et les coups. Et quand Dostoïevski jette son rodion au pied d'une fille perdue qui symbolise à ses yeux toute la misère humaine, je trouve qu'il déshonore la misère et calomnie l'humanité. »
La voix du prêtre, dépouillée de ses hésitations, montait harmonieuse et forte. À mesure, son regard comme son geste prenait de l'assurance une large envergure de prêche. Et Lydie, qui ne le connaissait que pour avoir vu de loin reluire et se retrécir au soleil sa soutane râpée, s'expliquait maintenant l'enthousiasme de sa belle-mère et du vieux Mérivet.
« Vous savez qu'elle vient de chez nous, cette pitié-là, monsieur l'abbé, » dit Jean Delcroux. « Elle date de 48. » Vous la trouverez dans les romans de Victor Hugo, de Madame Sand, d'Eugène Sue. Les Russes n'ont fait que nous l'emprunter en la raffinant pour leurs nerfs compliqués. N'empêche que la Sonia de Dostoïevski est de la famille de Fantine. »
Ravi de montrer à ces dames qu'il ne manquait pas lui non plus de lecture ni d'éloquence, le juge dressait la tête, enflait la voix comme au palais. Mais la fin de son speech se perdit dans une bousculade. Monsieur le curé, trouvant la visite assez longue, s'était levé vivement pour saluer la maîtresse de maison et se diriger vers la porte, quand le vicaire s'aperçut de son départ.
« Ah, mon Dieu !» se dit l'infortuné, « encore une distraction !»
Il bondit à travers le salon, buta sur un tabouret, renversa des chaises et, prenant son gros petit curé à plein bras, juste à l'instant où celui-ci allait sortir,
« Non !» « Je ne souffrirai pas, je sais trop ce que je dois à mon chef. »
Il l'enleva, l'écarta violemment et se précipita sur le perron où il arriva bon premier avec un geste de triomphe.
Drôle de bonhomme, pourquoi est-il toujours si pressé ?
Demanda Delcroux tout bas à Lydie et à sa mère qui regardaient s'en aller les deux prêtres. La pèlerine du curé s'agitait furieusement à la violence de sa mimique fulminante pendant que le vicaire l'escortait, consterné, l'échine basse, sous une terrible leçon de convenance mondaine qui ne lui profita guère. Car, ayant rencontré le facteur qui descendait de son bicycle devant la grille, il s'arrêta, toujours distrait et pitoyable, pour lui demander des nouvelles de sa femme malade. On entendit la voix du curé, cassante et nerveuse.
« Quand vous voudrez, l'abbé !»
Puis les protestations du malheureux Cérès disparut sur la route dans un tourbillon de poussière et de paroles violentes.
Notre pauvre vicaire, dit Madame Fénigan, ce n'est pas encore celui-là qui lui fera la vie douce.
Lydie ne répondit pas, absorbée par une lettre de Richard qui lui annonçait son retour et celui de Mérivet pour le mardi suivant.
Dans 3 jours, maman, il sera là dans 3 jours.
L'accent de sa joie, ses bras jetés au cou de sa belle-mère, marquaient tant de sincérité que le magistrat songeait à part lui en rentrant à Corbeil dans le jour qui tombait. Décidément, le mariage est une institution solide. Après de pareils assauts, dire que ces gens-là pourront faire encore un bon ménage. Ainsi juge le monde qui ne voit des êtres et des choses que les apparences dissimulantes n'en imagine jamais les dessous. Dans l'entourage même des Fénigans, parmi ceux qui approuvaient ou blâmaient l'indulgence du mari, son pardon généreusement octroyé, combien peut se douter que le drame durait encore, plus aigu, plus déchirant? Combien peut soupçonner le motif du long voyage de Richard et les lettres navrantes dans leur cruelle monotonie qu'échangeaient depuis 2 mois les deux époux? Les premiers temps surtout, l'absence et l'éloignement, au mirage si favorable d'ordinaire, aiguisaient au contraire l'agitation jalouse du mari. L'idée que le prince était à Grosbourg, qu'il pouvait se rencontrer, se revoir, ressassait en des lettres interminables, d'une écriture haletante, presque illisible, la scène de la nuit qui précéda son départ. « Pourquoi l'as-tu aimé? Jure-moi que tu ne l'aimes plus !» Et elle le jurait, couvrait des pages entières de protestations, épuisait les formules et les serments. Pourtant, le décor adorable et varié du Sahel algérien, et plus que le décor auquel ses regards bourgeois ne s'ouvraient guère, les chasses à cours, les affûts et les longues traites à cheval suivies de lourds sommeils sous la tente, finirent par détendre Richard Fénigan, l'arracher à l'idée fixe. Ses lettres changèrent d'intonation, plus sereines et plus fermes, comme la voix d'un convalescent. Un jour, Mérivée écrivit « Ça va mieux ». Et Richard, au bout de quelque temps, « Je suis tout à fait bien ». Suivait de très près la lettre annonçant le retour pour le mardi suivant. Assise sur un banc, dans le silence et la solitude du parc, Lydie la lisait et la relisait, cette chère lettre, toute remplie de tendres paroles, de projets heureux. Le jour finissait dans une douceur de teintes et d'atmosphère. Et ce qu'on voyait du ciel entre les branches passait du bleu à un vert attendri. Un vrai temps pour espérer et pour croire. Subitement, toute proche, derrière un massif, une voix de femme gronda, furieuse, impossible à reconnaître, tellement la passion la déformait.
« Allez-vous cacher, vilaine! C'est ça une tenue pour une femme mariée? Vous devriez avoir honte, sale créature !»
Lydie s'était levée, pleine d'épouvante, croyant à une insulte personnelle, quand elle aperçut devant la grille qui donnait sur la forêt, Rosine Chuchin, cramponnée au barreau des deux mains, vomissant sa colère dans la direction d'une robe rayée rose et d'une ombrelle en fuite dans le bois. Les laveuses lui avaient raconté le long colloque de M. Alexandre avec la fille Sautecœur et, jalouse de son vieil amant, une intrigue entre eux lui paraissait d'autant vraisemblable qu'elle voyait depuis quelques jours la Sautecœur rôder dans le petit Sénart, aux environs des Uzelles où Alexandre venait sans cesse. La présence de Lydie ne l'arrêta pas. Elle la prit à témoin de tant d'impudence et d'infamie.
« Comprenez-vous cette effrontée, madame ? Jusque chez nous, venir nous prendre nos hommes !»«
Tu es donc mariée, ma pauvre Rosine ?»«
Non, madame, mais il y a des choses aussi trop pénibles. Si elle croit que je lui laisserai faire son manège, ce n'est pas son jobard de mari que je préviendrai, mais son beau-père l'Indien avec qui il faudra qu'elle s'explique. Tu le paieras cher, coquine !»
Mais dans le chemin du bois, délicieux de tranquillité à cette fin de jour, il n'y avait plus que des bonds de l'apéro, des traversées de faisans, épouvantées par tous ces cris. Lydie, stupéfaite de trouver tant de passion dans cette Chuchin qu'elle croyait endormie, fermée, une vraie marmotte, essayait de la raisonner.
« Ce serait affreux d'avertir le beau-père, une bête féroce, tu sais bien. Mais je te connais, tu ne le feras pas, tu n'es pas méchante. »
Rosine secoua la tête. «
Non, mais je suis jalouse. Oh, jalouse, un mal comme la rage, voyez-vous, madame. On est mordu et l'on veut mordre. On souffre et on fait souffrir. »
Sa vulgaire figure devenait belle, colorée et convulsée par la passion. Et Lydie Fénigan retrouvait avec terreur dans ce masque de paysanne, comme une menace ou un présage, cette expression douloureuse qu'elle connaissait si bien, qui lui rappelait tant de cruelles heures.